l'initiative locale avec Charles Duplaix sur Radio Alpa.
En Sarthe, nous manquons de moyens pour l'inclusion et la prise en charge des enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement. C'est le constat que font Céline Méniat et Nathalie Bassard, deux mamans d'enfants autistes de 4 et 5 ans, devant les difficultés quotidiennes. Ah, alors non, c'est une maman d'enfant autiste et une maman d'enfant.
Alors Céline a un petit garçon effectivement de 4 ans qui est porteur d'un trouble du TSA. De mon côté, j'ai une grande de 13 ans et demi qui est TDAH, multidis et peut-être TSA. Pour l'instant, on attend encore des résultats.
Mais d'accord, c'est la formation que j'avais eue en premier lieu et qui voilà. Avait été modifiée par la suite. Alors, devant les difficultés quotidiennes rencontrées pour permettre à leurs enfants une scolarité adaptée à leurs besoins, ils ont créé une pétition pour interpeller les pouvoirs publics au niveau départemental et national pour appeler à déployer davantage de moyens. Alors, quelle est la situation que vivent ces deux mamans et que partagent les parents d'enfants TND? On en parle avec Céline Méniat et Nathalie Bassard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors Céline Méniat, vous êtes à l'origine de la pétition et Nathalie Bassard, vous êtes une des mamans membres de l'association. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de troubles du neurodéveloppement? Qu'est-ce que ça recouvre en fait?
En fait, concrètement, c'est souvent le fait d'être dans un échange qui sort de la norme. On ne communique pas de la même manière. On a des difficultés à comprendre des choses classiques, en fait, comme dire bonjour, la politesse, ce genre de choses. C'est quelque chose qui n'est pas inné, en fait, qui doit s'apprendre au travers de découvertes, souvent avec un accompagnement derrière, parental, professionnel. Et pareil, ça a des répercussions sur tout ce qui va être les apprentissages, le fait d'être un adulte autonome plus tard.
Et donc vous dites constater un manque criant de structures et de moyens adaptés pour les enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement, donc TND en abrégé. C'est-à-dire, est-ce que vous parlez d'un manque de structure, d'un manque de personnel? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Il y a un peu tout à la fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de structures déjà, ou du moins elles sont toutes surchargées pour le coup. On a beaucoup de professionnels qui finalement commencent à fuir la profession parce qu'effectivement, les conditions de travail sont difficiles. C'est pas un emploi, hein, clairement, qu'on a envie de faire toute sa vie, je pense. Et puis bah, derrière, on a effectivement un cruel manque de moyens en fait, pour encadrer tout ça. C'est-à-dire que c'est un budget qu'on ne met pas complètement dans les professionnels, qu'on ne met pas complètement dans le matériel qu'on va utiliser pour encadrer le travail avec ces jeunes. Il y a beaucoup de choses qui sont défaillantes et c'est vraiment pas juste une question de structure parce qu'effectivement, si on parle d'IME, les IME sont surchargés, il y a des fermetures aussi. On a des personnes qui se mettent en grève aussi assez régulièrement, comme on peut le voir dans les écoles, par exemple. Donc c'est quelque chose en fait qui est un peu imbriqué en fait et qui ne marche pas en fait. En finalité, parce qu'il y a des manques à tous les niveaux.
Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels seraient les besoins concrètement pour vos enfants respectifs, pour être accompagnés au mieux? En fait, quelles sont les adaptations nécessaires au quotidien pour eux?
Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des structures qui existent. Il y a un nombre de places qui pourraient paraître tout à fait suffisant, sauf qu'un enfant qui rentre dans ce type d'accompagnement, que ce soit en IME ou par le CESAD, c'est des équipes pluridisciplinaires qui vont intervenir notamment sur le lieu de scolarité, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, qui vont venir dans les écoles et qui vont accompagner les enfants pour proposer justement les adaptations aux enseignants. Sur ces établissements, il y a donc un nombre de places qui est défini. Un enfant va rentrer pour un suivi dans ces établissements par rapport aux besoins qu'il a. Et il va y rester parfois 4 ans, 5 ans, 6 ans, enfin, jusqu'à ce qu'il sorte en fait, du système scolaire. Sauf que tant que la place est occupée, forcément, on ne peut pas faire rentrer un nouvel enfant. Il faut attendre que les places se libèrent. Et notamment sur les IME, on se retrouve bloqué parce que normalement, arrivé vers 17, 18 ans, c'est des enfants, des adolescents, des jeunes qui vont quitter l'IME parce que c'est plus des enfants. On est bien d'accord là-dessus, sauf qu'après, il n'y a pas en fait de solution pour les accueillir et pour continuer à les encadrer et à les aider.
Donc c'est à partir de quel âge qu'il n'y a plus de solution, pour être clair?
À 18 ans, théoriquement, un jeune quitte l'IME vers une autre structure, vers des foyers d'accueil, vers des foyers de vie, où il va être pris en charge par des éducateurs, par des gens spécialisés qui vont pouvoir l'aider à passer sur le côté professionnel et à devenir un adulte. Et ces jeunes n'ont pas de place, en fait. On ne trouve pas d'endroit, il n'y a pas d'endroit pour les accueillir, il n'y a pas de solutions qui sont proposées. Et du coup, ils restent encore quelques temps sur les IME. Donc ça continue à participer, en fait, au blocage pour l'entrée des petits qui arrivent derrière.
Et donc c'est une situation que vous constatez personnellement, c'est-à-dire que vous avez des difficultés à trouver des places pour vos enfants?
En fait, on se rend compte que les profils sont extrêmement triés. C'est-à-dire qu'il y a des profils qui pourraient être sur un profil un peu intermédiaire. Donc eux, ils pourraient avoir accès au scolaire, mais en même temps, les écoles telles qu'elles existent et telles qu'elles fonctionnent, dans des classes bondées à 25-30 élèves, c'est clairement impossible d'avoir un jeune en situation de handicap, surtout si derrière on a des troubles qui peuvent être des fois un peu envahissants. Notamment dans le TSA, on a des troubles du comportement des fois qui peuvent être difficiles à encadrer. Si on se retrouve, on met un enfant autiste en plein milieu d'une classe de 30 élèves avec le bruit que ça génère, ça devient compliqué en fait. Et surtout, est-ce qu'on a des personnes qui sont réellement formées, qui ont tout la panoplie en fait pour les accueillir dans des bonnes conditions? Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Et ça dépend trop bien souvent en fait de ce facteur-là. Est-ce que l'enseignant va être sensible à ça? Est-ce que l'AESH va pouvoir avoir les armes en fait pour accompagner ce jeune? Et est-ce qu'elle va pouvoir rester aussi toute l'année? Il y a aussi ces interrogations-là. Est-ce que ça va pas tourner? Parce que c'est aussi ça, en fait, le TSA, on met des enfants face à de l'inconnu. C'est déjà quelque chose qui est difficile pour eux à gérer. On ne les aide pas, en fait, pour les insérer dans un milieu scolaire.
Donc, et alors, c'est quoi les conséquences pour ces enfants, très concrètement? Qu'est-ce qui se passe pour eux?
La plupart sont en attente de passer sur des IME parce qu'on ne sait pas quoi en faire, en fait, concrètement. Donc, la seule solution, ça va être en finalité un passage en IME. Mais en IME, on a, surtout notamment en Sarthe, 1 à 2 ans, des fois plus, d'attente pour pouvoir avoir une place. Moi, j'ai le cas, effectivement, dans ma famille, une nièce qui a 19 ans, qui devrait normalement pouvoir être actée dans un foyer de vie, mais elle n'a pas de place. Donc, elle est obligée de rester dans l'IME. Ses parents font des demandes. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc, moi, mon enfant, pour l'instant, a un profil où on s'interroge encore. Il est en moyenne section. On va pouvoir certainement l'orienter plus sur un profil type IME. Mais en fait, ce choix, il est assez difficile parce qu'au final, on a l'impression de devoir faire un choix entre les soins que l'enfant aurait besoin de recevoir et en même temps cet aspect scolaire qui n'est pas suffisamment travaillé. Normalement, tout le monde devrait avoir accès à ces acquis-là, en fait, qu'il ait un handicap ou qu'il n'en ait pas.
Et donc, pour les nouveaux qui ne sont pas encore entrés dans ces établissements et justement qui sont bouchés par manque de place, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en attente de manière indéfinie?
Alors, il existe dans les écoles des dispositifs qui ont été mis en place pour aider les enfants en difficulté scolaire, hein, que l'on appelle les dispositifs ULIS. À la base, c'est des dispositifs où les enfants sont présents sur cette unité, en fait, sur quelques heures dans la semaine ou un peu plus en fonction des besoins et le reste du temps en inclusion dans leur classe de tranche d'âge. Peu importe le niveau qu'ils ont, mais ils participent à la vie de classe. Typiquement, c'était un dispositif qui avait été mis en place pour accueillir des enfants plus du côté TDAH et 10. Alors les 10, tout le monde connaît la dyslexie, hein, il y en a plusieurs. C'est peut-être pas l'occasion pour rentrer dans le détail. Mais ces enfants qui suivent un parcours scolaire, mais qui ont besoin d'un soutien supplémentaire, se retrouvent en fait finalement bloqués dans le système classique, avec normalement une AESH, donc une aide de vie scolaire qui les accompagne. Je dis bien théoriquement, puisque à la rentrée de septembre, on avait quand même 350 enfants sur le département qui n'avaient pas d'AESH attribué malgré une notification de la MDPH. Et les places, en fait, dans les ULIS sont occupées par des enfants qui devraient théoriquement être orientés vers les IME. Mais comme ils n'ont pas de place en IME et qu'on ne peut pas les mettre dehors, puisque l'éducation, c'est quelque chose d'obligatoire, on les récupère dans les classes ULIS.
Et alors, cette situation, c'est une situation qui est particulière à la Sarthe ou non? C'est quelque chose que vous rencontrez dans tout le territoire?
Non, c'est national. C'est national, plus ou moins marqué suivant les départements, mais globalement, on peut dire que tous les départements sont touchés aujourd'hui.
Ce côté débordé, effectivement, de tous les organismes, il est présent partout en France. On retrouve la même problématique partout, mais effectivement, il y a des disparités d'un département à un autre. Pourquoi?
Mais ça, touchés, ils sont, tous les départements sont touchés. Il y a pas, voilà, on n'est pas un cas isolé, on n'est pas un département, mais on est en situation de crise par rapport à ces accueils. Parce qu'on a des enfants qui se retrouvent du coup pas dans la bonne structure, faute de place.
Et vous n'avez pas l'air de dire que c'est un manque de volonté de la part de ces acteurs. C'est quoi alors? C'est un manque de volonté politique?
C'est une question qui est un peu difficile à répondre parce que je pense qu'il y a tellement en fait de budget à mettre à droite à gauche. Il y a tellement de sujets importants en fait en France. On a les hôpitaux. Le monsieur juste avant le disait. C'est des manques criants en fait pour les personnels dans le milieu hospitalier. J'ai l'impression que plus largement, tout ce qui va être relatif à la psychiatrie, c'est exactement la même chose. Et pourtant, on a des populations aujourd'hui qui souffrent de plus en plus. On le voit à burn-out, le Covid qui est passé par là, les gens font des dépressions beaucoup plus marquées. Ça a toujours existé et pour autant, on ne fait pas le choix d'aller aider la plupart des personnes. La population n'est pas aidée là-dedans. On voit l'accompagnement Mon Psy, là, par exemple, qui est pris en compte. Mais il y en a combien de professionnels réellement qui sont prêts à faire partie de ce dispositif et qui vont pouvoir aider la population? Il n'y en a pas énormément. Moi, je vois sur le territoire sartois, je crois qu'ils sont deux psychologues à le faire. Donc en fait, il n'y a même pas une réelle prise en charge de ces problématiques-là. Et quand on va regarder dans d'autres pays, ce qui est le cas par exemple du Québec, ce qui peut être le cas même en Belgique, même en Italie, ces pays-là, en fait, ils ont fait le choix d'investir au démarrage, c'est-à-dire qu'on investit dans les professionnels. On ne choisit pas d'investir dans des structures, comme ça a été le cas en France avec le système des IME. On finance des professionnels. Donc les familles, elles ont accès à tous ces professionnels, elles se retrouvent pas en fait obligées à devoir financer la moitié des choses de leur poche. Parce que certes, il y a des aides, mais les aides, elles compensent pas suffisamment les besoins des enfants la plupart du temps. Donc aujourd'hui, la politique, c'est quoi? C'est si tu as un peu d'argent, tu peux parfaitement accompagner ton enfant. Si tu en as pas, et dans la réalité, on se retrouve vraiment dans des situations précaires, parce qu'on se retrouve obligé d'arrêter de travailler, comment on fait en fait pour pouvoir donner une chance à nos enfants? Il faut trouver des solutions là-dessus, on ne peut pas tout excuser par le budget au bout d'un moment.
Et on rappelle que la santé mentale est cause nationale en France pour la deuxième année consécutive cette année. En tout cas, la pétition que vous avez lancée, vous l'adressez particulièrement au préfet de la Sarthe, au département, au ministère de l'Éducation. Qu'est-ce que vous attendez de leur part en fait en leur adressant cette pétition?
D'engager des discussions, de pouvoir se réunir tous ensemble entre les différents acteurs. Vous avez les associations, il y a les parents aussi qu'il faudrait peut-être écouter au bout d'un moment, toutes ces familles en fait qui même n'osent pas prendre la parole. Et on se rend compte en les questionnant, quand on commence à vraiment rentrer dans le sujet, à échanger avec beaucoup, beaucoup de familles, que beaucoup souffrent en vrai. Il y en a qui ont perdu l'envie en fait d'aller témoigner, de dire ce qui se passe, les réalités de leur quotidien. Il y en a qui ont envie de l'évoquer, qui sont en colère aussi. Alors des fois, c'est des colères envers l'école, ça peut être des colères envers effectivement le gouvernement, ça peut être des colères un peu sur plein de sujets. Mais en fait, en colère, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on s'entende tous, qu'on s'assoie tous autour d'une table. Directeur d'école, les enseignants s'ils le souhaitent, l'éducation nationale, tous les acteurs qui sont à même de distribuer un budget aussi pour pouvoir échanger et trouver des actions concrètes qu'on pourrait mettre en place. Aujourd'hui, je pense que dans l'humain, on est capable de s'entretenir, on est capable de choses extraordinaires. Alors, pourquoi on ne serait pas capable en fait, d'en trouver aussi pour ces sujets-là?
Et du coup, vous encouragez à signer cette pétition, justement, ouais. Est-ce que chacun, chacune puisse la signer?
Ah oui, bien sûr. Nous, après cette pétition, il y a une réflexion qui s'est mise en place assez rapidement. J'ai rejoint Céline et Tiffany qui étaient à l'origine elles, de la pétition. Moi, je les ai rejoints juste après, en fait, sur la création justement d'une association qui s'appelle Avenir TND. On attend la validation par la préfecture. Hein. Le dossier a été déposé la semaine dernière. On est déjà en action. On a créé une communauté sur WhatsApp.
L'objectif, c'est de pouvoir pérenniser votre action. En fait.
Alors, c'est surtout pour pouvoir permettre aux familles qui se retrouvent un petit peu justement isolées et perdues et sans solution et qui ne savent pas forcément vers qui se tourner et à qui s'adresser, et d'avoir un endroit en fait où elles peuvent échanger. Tout le monde sur le groupe, là, on est déjà une dizaine de familles. Quand quelqu'un rencontre une difficulté ou un problème, on fait fonctionner les réseaux, on fait fonctionner nos expériences, comment on a pu passer à travers certaines étapes. Et ça permet aux familles aussi de pouvoir souffler déjà sur certains points. Et puis, on est en train de mettre en place un réseau en prenant des contacts avec des acteurs de terrain qui peuvent avoir du poids et qui peuvent participer à la réflexion sur justement qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer et sur quoi on va pouvoir avoir du poids. Mais pour ça, il faut être nombreux et on aimerait bien justement être rejoint par d'autres familles, des acteurs, des enseignants.
Tout le monde.
Des politiques, même éventuellement, on est apolitique, hein, bien évidemment, mais concrètement, si on peut faire porter notre voix au-delà, en fait, de la Sarthe, vers le haut, vers le gouvernement, vers les grands décideurs, ben, pourquoi pas, après tout.
D'autres départements s'y mettent aussi, parce que ça serait super intéressant. Il y a déjà un collectif dans les Vosges qui s'est créé autour de ça, c'est devenu une association. Eux, c'est pareil, ils ont relaté au moins 300-400 témoignages. On a une pétition qui a été mise en place, je crois, peut-être une semaine, deux semaines après la nôtre, qui est du côté de Carcassonne. Franchement, je pense que plus on va en créer, plus on va avoir des mouvements comme ça qui vont apparaître entre les familles, les professionnels et tous les autres acteurs, plus ça aura vraiment d'impact.
Je vous remercie Céline Ménia et Nathalie Bassard, membres de la future association donc en constitution Avenir TND, donc pour troubles du neurodéveloppement. On rappelle que vous êtes à l'origine donc d'une pétition Enfants TND, des places et des moyens maintenant dans le 72 et ailleurs. Et vous pouvez la retrouver sur change.org. Merci beaucoup.
Merci.
L'initiative locale avec Charles Duplaise sur Radio Alpa.